Miami. À Washington.
Bonsoir à tous, bienvenue dans cette édition du vendredi 8 mai 2020. Eric Manirakidze à la présentation, d'abord le sommaire. Guillaume Soro visé par une plainte à Paris, notamment pour assassinat. L'association du barreau américain appelle à la libération immédiate de Samuel Adjeka Aboué, journaliste camerounais arrêté il y a 9 mois. Au Tchad, le renforcement des mesures pour contenir le coronavirus entre en vigueur ce vendredi.
N'Djamena, la capitale tchadienne, sera bouclée à partir de ce 8 mai. Pas d'entrée, pas de sortie, mais une dérogation est faite aux véhicules transportant les marchandises et les denrées alimentaires.
Libye, 15 morts en 48 heures dans des tirs de roquettes sur Tripoli. Aux États-Unis, arrestation de 2 hommes blancs en Géorgie pour meurtre d'un noir de 25 ans. Pékin soutient la création d'une commission pilotée par l'OMS pour évaluer la crise sanitaire mondiale liée au Covid-19. Également, dans cette édition du Monde Aujourd'hui, l'économie et les sports, mais tout d'abord le journal. En Côte d'Ivoire, l'ancien Premier ministre Guillaume Soro est visé par une plainte déposée à Paris dans laquelle il est accusé de torture, assassinat et crimes de guerre commis en 2004 et 2011. Les détails avec Bagassi Koura.
Cette plainte déposée jeudi avec constitution de partie civile permet aux demandeurs dénonçant des faits pouvant être qualifiés de crimes de réclamer la désignation d'un juge d'instruction pour mener des investigations sans passer par une enquête préliminaire du parquet. Dans cette plainte, M. Soro, qui conteste les accusations, est notamment présenté comme le commanditaire de l'enlèvement suivi de tortures et d'assassinats d'Ibrahima Koulibaly, dit IB, un ex-chef rebelle ivoirien, le 27 avril 2011. Les plaignants demandent également des poursuites pour des morts causées lors de combats entre factions rivales dans la nuit du 20 au 21 juin 2004 à Bouaké et Korogo, qu'ils attribuent aux forces nouvelles de Guillaume Soro, aujourd'hui âgé de 47 ans. Les avocats justifient notamment cette plainte par le fait que M. Soro réside depuis fin 2019 en France, un des éléments qui permet la saisine de la justice française. Les faits dénoncés dans cette plainte sont faux et j'ai donné instruction à mes avocats de déposer une plainte en dénonciation calomnieuse, a réagi Soro par l'intermédiaire d'un de ses avocats, Maître Jean-Marc Fédida. Guillaume Soro, candidat déclaré à la prochaine élection présidentielle ivoirienne prévue en octobre, a par ailleurs été condamné fin avril par la justice de son pays à 20 ans de prison pour recel de détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux lors de l'achat de sa résidence d'Abidjan en 2007.
Le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, affirmait que les groupes terroristes profitent de la pandémie de Covid-19 pour intensifier leurs attaques au Sahel. Ils réclament une coordination plus forte entre les forces étrangères qui les combattent. L'association du barreau américain appelle à la libération immédiate du journaliste camerounais Samuel Adjeka Aboué. Également connu sous le nom de Samuel Wazizi, il est écroué et tenu au secret depuis son arrestation il y a 9 mois. Le point avec Yacouba Ouedraogo.
Samuel Adjeka Aboué a été arrêté le 2 août 2019 par des policiers du 3e district de Boya qui lui ont demandé de les accompagner au poste. Selon l'association du bureau américain, depuis 9 mois, son avocat, sa famille et ses collègues n'ont jamais été autorisés à le rencontrer ni connaître son lieu de détention. Le journaliste travaille pour les Chilean Music et Television à Boya, en zone anglophone, théâtre d'un conflit séparatiste depuis 2017. Il a été détenu sans inculpation formelle et les autorités ne l'ont pas présenté devant un tribunal. L'association du barreau américain exhorte donc le Cameroun à libérer M. Aboué ou divulguer immédiatement son lieu de détention et lui donner accès à un avocat et à sa famille. La situation du journaliste est exacerbée par la présence du Covid-19 dans les prisons camerounaises, s'inquiète cette association. Malgré la libération de nombreux prisonniers le 15 avril, Samuel Adjeka Aboué et d'autres prisonniers d'opinion n'ont pas bénéficié de la grâce présidentielle.
Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés s'est alarmé vendredi de l'escalade des violences en Ituri, dans le nord-est de la RDC, qui ont jeté 200 000 personnes sur les routes depuis le mois de mars. Plus de 700 civils ont été tués dans ces nouvelles violences depuis décembre 2017, d'après les Nations Unies. Les violences s'intensifient depuis le lancement en décembre 2019 d'une opération militaire contre plusieurs groupes armés dans la province. Les autorités d'une province du nord-ouest de la RDC ont annoncé avoir démantelé un réseau de trafic de munitions vers la Centrafrique voisine. Isaton Nzege, gouverneur du nord Ubangi, frontalière avec la RCA, affirmé qu'ils ont saisi 10 cartons de bombes utilisés dans des combats de corps à corps, puis 1490 munitions neuves pour AK-47. Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a annoncé vendredi la remise en liberté sous contrôle judiciaire de 19 000 détenus afin de vider les prisons du pays. Il a pris cette décision en réponse à l'appel des Nations Unies pour rendre possibles les mesures de distanciation sociale et d'isolement. Près de 160 000 détenus sont incarcérés dans les 243 établissements pénitentiaires sud-africains. Deux prisonniers sont décédés des suites du coronavirus. L'Afrique du Sud est le pays d'Afrique subsaharienne le plus touché par le Covid-19, avec plus de 8200 cas, dont 161 mortels, selon le dernier bilan. Au moins 13 civils et 2 policiers ont été tués et des dizaines de personnes blessées ces dernières 48 heures dans des tirs de roquettes sur Tripoli. Selon le gouvernement d'Union nationale, GENA, ces roquettes se sont abattues vendredi avant l'aube sur un quartier peuplé du centre-ville où siège le ministère des Affaires étrangères du GENA et les ambassades de Turquie et d'Italie. Le porte-parole du ministère de la Santé, Amin Al-Hashemi, a accusé les forces rivales du maréchal Khalifa Haftar. La Tunisie a annoncé avoir autorisé l'atterrissage sur son sol d'un avion turc transportant une cargaison d'aide médicale à la Libye, seulement après avoir exigé l'inspection et la livraison par ses soins de cette assistance. Les autorités marocaines ont ouvert une enquête interne visant des agents administratifs locaux et démenti toute implication de la police après la publication par Reporters sans frontières dénonçant l'agression de journalistes locaux pendant un reportage.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Suite aux pressions des États-Unis exigeant une enquête sur l'apparition du coronavirus en décembre en Chine, Pékin a déclaré soutenir la création d'une commission sous l'égide de l'OMS afin d'évaluer la réponse au Covid-19 au niveau mondial et après la fin de l'épidémie. Nathalie Barche.
L'évaluation devra se faire de façon ouverte, transparente et inclusive, a déclaré la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Hua Chunying, sans évoquer l'origine du virus comme étant l'un des thèmes de cette évaluation. Le président américain Donald Trump et le secrétaire d'État Mike Pompeo ont accusé le gouvernement chinois de manque de transparence et ont avancé que le virus serait parti d'un laboratoire de Wuhan. Pékin estime que le Covid-19 ne vient pas forcément de son territoire car le patient zéro qui n'a pas été retrouvé pourrait venir d'ailleurs. L'OMS discute actuellement avec Pékin de l'envoi en Chine d'une mission d'enquête sur l'origine animale du virus. D'autres pays comme l'Australie, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont aussi exhorté la Chine à faire preuve de transparence. Pékin affirme avoir partagé rapidement avec l'OMS les données à sa disposition.
Ici aux États-Unis, deux hommes blancs ont été arrêtés en Géorgie, dans le sud du pays. Ils sont accusés d'avoir tué fin février un homme noir de 25 ans, mais seulement après le vif émoi suscité par la diffusion de la vidéo du drame. N'est-ce pas, Claire-Marie Gibourg?
La vidéo ne dure que 28 secondes. À Mount Arbury, un homme noir âgé de 25 ans fait son jogging le long d'une route en Géorgie. Il contourne un pick-up où se tient un homme, puis il est attrapé par un deuxième homme. On entend un coup de feu, puis un second. Identifiés par la police, les deux hommes blancs sont un père et son fils qui ont affirmé qu'ils pensaient que l'homme noir qui faisait son jogging était un voleur en train de se pavaner, selon leurs propres termes. Tous deux ont été arrêtés et inculpés hier soir pour meurtre et agression. Le président Donald Trump a dit qu'il n'avait pas vu la vidéo. Il a déclaré « Mes pensées vont vers les parents et les proches du jeune homme. C'est une chose très triste. » Lorsque la vidéo est devenue virale, de nombreuses stars et responsables politiques ont fait part de leur indignation, dont le candidat démocrate Joe Biden. Certains ont même fait un parallèle avec l'affaire Trayvon Martin, un adolescent noir non armé qui a été abattu en 2012 par un vigile en Floride.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. Actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minuteco qui vous est présentée ce soir par Nanit Talani.
Le délai de licenciement du personnel de South African Airways a été suspendu en attendant qu'un juge examine cette affaire portée devant les tribunaux par deux syndicats. Les administrateurs ont demandé dimanche que les syndicats devaient s'accorder sur les conditions de licenciement avant le 8 mai, sinon un accord serait proposé à tout le personnel. Ce dernier aurait alors jusqu'à la fin du mois de mai pour accepter les conditions de licenciement, sinon South African Airways pourrait commencer à licencier ses quelques 5000 employés. Au Zimbabwe, les petits commerçants du secteur informel, contraints à la débrouille pour survivre, se sont lancés dans la fabrication de masques de protection fait maison, en attendant l'autorisation de reprendre leur commerce habituel. Dans un pays déjà étranglé par une crise économique et financière catastrophique, le confinement a privé les plus démunis et leurs familles des maigres ressources qui leur permettent de se nourrir grâce au commerce informel. Pour terminer, à Madagascar, les travaux de construction de la centrale agrophotovoltaïque de Tsaratanana sont achevés à 20%, publie l'agence Ecofin. Le projet inclut également un volet agricole qui permettra la mise en place d'un centre de formation en agriculture et en élevage et d'infrastructures. Il est financé par la Banque fédérale allemande.
Et sans transition, nous passons à votre page des sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir à tous. Le board, garant des lois du football, a autorisé le passage de 3 à 5 remplacements par match pour ménager les joueurs. Cette mesure provisoire est applicable dès la reprise des compétitions suspendues à cause du nouveau coronavirus. Selon un communiqué commun de la FIFA et du board, ces deux structures ont précisé que cette modification prévaut jusqu'à fin décembre. Mais cette option pourrait être prolongée jusqu'à 2021. De plus, un sixième remplacement sera possible durant la prolongation. Ce passage à 5 remplacements va être mis en vigueur en Allemagne, où la Bundesliga va reprendre à huis clos dès le 16 mai, a affirmé la Ligue allemande de football. Les remplacements pourront s'effectuer en 3 interruptions de jeu, ainsi qu'à la mi-temps, afin d'éviter de trop perturber le cours du match. La FIFA et le board ont également laissé la liberté aux organisateurs de ne pas utiliser l'assistance vidéo à l'arbitrage lors de la reprise des compétitions. En France, Kylian Mbappé a été officiellement sacré meilleur buteur de la saison 2019-2020 de la Ligue 1 pour la deuxième fois consécutive. L'attaquant du PSG a inscrit 18 buts. Mbappé devance le Monégasque Wissam Ben Yedder, classé deuxième, malgré ses 18 réalisations, car il a moins marqué dans le jeu que son rival parisien, 15 fois contre 18. Le milieu argentin du PSG, Angel Di Maria, est sacré meilleur passeur du championnat avec 14 passes décisives, devançant l'Algérien de l'AS Monaco, Islam Slimani, et le Pressois, Johan Kurt. En Allemagne, Miroslav Klose, meilleur buteur de l'histoire des Coupes du Monde avec 16 réalisations, a été nommé adjoint de l'entraîneur du Bayern Munich, Hansi Flick. À 41 ans, le champion du monde 2014 prendra officiellement ses fonctions le 1er juillet. Son contrat court sur une saison jusqu'au 30 juin 2021. Il s'occupait depuis 2 ans des moins de 17 ans du Bayern, ancien joueur du Bayern Munich de 2007 à 2011 et également meilleur buteur de l'histoire de l'équipe d'Allemagne avec 71 buts. Klose s'est lancé dans une formation d'entraîneur et a déjà travaillé de 2016 à 2018 auprès de Joachim Löw, le sélectionneur allemand. Ici aux États-Unis, les joueurs d'Atlanta United FC, du Sporting Kansas City, de l'Inter Miami et d'Orlando City SC ont repris l'entraînement individuel dans leur installation mercredi. Ces retrouvailles avec les pelouses ne concernent que les franchises des États dont les directives relatives au COVID-19 le permettent. Le Houston Dynamo a rouvert ses portes jeudi. D'autres clubs éligibles comme l'Impact Montréal ont en revanche décidé d'attendre quelques jours. Parmi les règles fixées par la Ligue, pas plus de 4 joueurs à la fois sont autorisés à s'entraîner, chacun possédant sa portion de terrain. Chaque joueur doit se présenter, masquer et se faire prendre la température à son arrivée. La saison MLS a été suspendue le 12 mars. Après seulement 2 journées, l'éventuel retour à la compétition est fixé au 8 juin au mieux.
C'était les sports de Yakuba Ouedraou.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique. Eric Manelakidza toujours en votre compagnie. À présent, les dossiers du jour. Au Mali, 2 personnes ont été blessées par balle hier à Sikasso en marge d'une manifestation contre les résultats définitifs des élections législatives. Ces jeunes faisaient partie des manifestants qui ont bloqué pendant toute une semaine les 4 entrées de la ville de Sikasso dans le sud du Mali, empêchant plus de 600 véhicules de circuler entre le Mali et le Burkina Faso, mais aussi à la frontière entre le Mali et la Côte d'Ivoire. Le point avec Kassim Traoré, notre correspondant au Mali.
La Cour constitutionnelle a validé le 30 avril une partie des recours introduits par des candidats dénonçant des irrégularités pendant le scrutin. Baba Dakono, chercheur.
Ce sont des contestations qui se font principalement dans les grandes villes du pays. Elles sont liées à plusieurs faits. Le premier, ce sont les élections législatives qui viennent d'être bouclées par la Cour constitutionnelle. Les résultats définitifs ne sont pas acceptés par tous les actes qui tranchent avec celles qui avaient été proclamées provisoirement par le ministère de l'administration territoriale. Donc le renversement de partiel de ces élections législatives a créé beaucoup de frustrations. Mais à côté de ces frustrations, il y a également une colère ambiante qu'on observe dans le pays depuis quelques années.
Des centaines de jeunes manifestent depuis lundi leur mécontentement. Ils accusent la Cour d'avoir volé à l'opposition sa victoire dans les communes 1, 2, 5 et 6 de la capitale et à Dakar. Adama Ben Diarra, jeune leader.
Nous savons à qui nous nous adressons. À la victoire des chiens au coin de Bamboulo. Parce qu'on a dit depuis très longtemps que nous sommes des snipers. On prend le temps nécessaire qu'il faut pour viser à pied l'ennemi. On n'est pas là pour sauver la tête d'un individu, mais on est là pour sauver la patrie. Et nous n'allons pas accepter que notre victoire soit volée.
Pour les jeunes de Bougouni, il y a eu de la triche. Le plus grand rassemblement s'est déroulé à Sikasso, ville du sud du pays, proche de la frontière avec le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire.
Parce que là où nous sommes, on est dépassés. On dirait qu'il n'y a pas de blanc au Mali. Moi, je pense que si je dois avancer, qu'on appelle une requête. Une requête qui doit tenir depuis au niveau du bureau dans les bureaux de vote. Mais il n'y a pas eu de requête dans les bureaux de vote.
Si à Bougouni, Sikasso et certaines communes de Bamako, les manifestations sont liées aux résultats des législatives, il faut reconnaître que la colère généralisée est dirigée contre le couvre-feu. Baba Dakono, chercheur.
Ce qui fait que ces manifestations prospèrent aujourd'hui, c'est que les gens expriment un ras-le-bol face au couvre-feu dont on ne voit pas les effets positifs. Mais à côté de ça, il y a également les coupures intempestives d'électricité. Donc en cette période de grande chaleur, et le couvre-feu devient insupportable. Donc dans le court terme, il faut trouver une solution pour le couvre-feu, même s'il faut un réaménagement horaire. Mais il faut aussi faire en sorte que la société fournisseur d'énergie puisse le faire en toute efficacité et que les gens aient l'électricité, ne serait-ce que la nuit pendant la période du couvre-feu.
Ces contestations se passent malgré le contexte marqué par le coronavirus. Le Mali a 580 cas confirmés et 29 décès.
Parce que ce sont des manifestations spontanées, on voit des gens qui sortent, il n'y a pas de respect des mesures barrières et ce sont à l'occasion de ces protestations des gens qui se touchent, qui touchent des objets qui peuvent être contaminés. Donc c'est un vecteur de propagation de la maladie. Donc on se rend compte finalement que le coup fait contre-productif. Donc au lieu de lutter contre la propagation de la maladie, il devient un facteur de propagation de cette maladie-là en fin de compte.
2 jeunes personnes ont été blessées par des balles hier à Sikasso, en marge d'une manifestation contre les résultats définitifs des élections législatives. Ces jeunes faisaient partie des manifestants qui ont bloqué pendant une semaine les 4 entrées de la ville de Sikasso dans le sud du Mali, empêchant 600 véhicules de circuler entre le Mali, le Burkina Faso d'un côté et la frontière Mali-Côte d'Ivoire de l'autre. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Au Tchad, les autorités ont confirmé hier 83 nouveaux cas d'infection au coronavirus avec 6 décès, ce qui porte le total à 253 cas confirmés et 27 morts. Le gouvernement a renforcé les mesures de prévention À partir de ce vendredi, le port de masque est obligatoire. L'organisation de funérailles est formellement interdite, tout comme les sorties et entrées dans la ville de N'Djamena. Le reportage de notre correspondant à N'Djamena, André Kodmadjingar.
N'Djamena, la capitale tchadienne, sera bouclée à partir de ce 8 mai. Pas d'entrée, pas de sortie, mais une dérogation est faite aux véhicules transportant les marchandises et les denrées alimentaires. Le port de cache-nez est obligatoire. Les cérémonies de deuil et de transport des corps sans vie d'une ville à l'autre sont également interdites pour une durée de 2 semaines renouvelables.
Chaque jour qu'on écoute les ondes de la radio, qu'il y a vraiment tel nombre de gens qui sont confinés, il n'y avait pas eu mort d'homme. Et donc, ils devraient prendre cette mesure.
Je pense que le gouvernement est dans son rôle régalien de protéger sa population. Ce que je déplore, ce gouvernement prend certes des décisions, mais il y a manque de mesures d'accompagnement.
C'est comme faire le confinement comme ça, mais il n'y a pas à manger. Mais la personne, il va mourir sans que ça soit le coronavirus.
C'est salutaire. Ils ont laissé les gens qui ont utilisé leur voiture personnelle pour voyager à l'intérieur du pays. Et c'est ce qui a amené des problèmes. On devrait boucler la ville de N'Djamena dès la première semaine du mois de mai.
À la veille de l'application de cette mesure en N'Djamena, considéré comme un foyer de contamination communautaire, les voyages clandestins continuent. Montana Dinaromtan, syndicaliste et technicien de laboratoire, invite la population à observer strictement ces mesures. C'est le moyen pour rompre la chaîne de contamination.
Plus il y a de mouvements de population, plus le risque de contamination est élevé parce que la chaîne est là. Donc, en prenant ces mesures, le gouvernement cherche à couper la chaîne de transmission. Nous sommes là en train de parler. Si je parle sans masque, je peux émettre des gouttelettes qui peuvent vous contaminer. Or que le port de masque, ça empêche quand même la projection des gouttelettes. Donc, c'est des mesures que les gens trouvent banales, mais que c'est très important qu'il faut que la population respecte ça.
Pour le sociologue Mbete Félix, le gouvernement doit prendre cette décision bien avant les mesures barrières.
Combien de gens ont quitté les provinces pour venir amener des corps pour aller enterrer à Mundu, à Droba, à Umrayata? Les risques de contamination à travers ces corps qu'on amène sont très élevés. Aujourd'hui, des gens commencent à signaler quelqu'un en province. Et c'est parti d'où déjà maintenant? Mais c'est comme on dit des quinines très amères qu'il faut avaler parce que pour moi, j'aurais aimé que ces mesures, surtout les funérailles, auraient pu être prises un peu plus tôt que prévu, mais mieux vaut tard que jamais.
Pour Dr Sitak Yombatina Beni, juriste et enseignant chercheur, l'arrêté réglementant l'entrée et la sortie des personnes dans la ville de N'Djamena et dans certaines provinces couvertes par le décret instituant le couvre-feu de 21 jours pose un problème de droit.
Parce qu'après 21 jours, ce n'est plus l'exécutif, mais c'est l'Assemblée nationale qui doit décider de l'opportunité de prolonger ou pas. Ce n'est pas qu'on ne veut pas lutter contre le Covid, mais que tout ce qui doit se faire se fasse, n'est-ce pas, de manière légale. Nous sommes dans un état de droit. Et surtout, il y a un décret qui est déjà là. Les arrêtés ne peuvent pas contredire le texte principal.
André Kodmadjingar, N'Djamena, pour VOA Afrique.
VOA Afrique, N'Djamena, c'est 93.1 FM au Tchad.
Les médecins sont en première ligne de la lutte contre le coronavirus, mais doivent faire aussi face à leurs propres peurs et angoisses. Le docteur Brahima Sawadogo est psychiatre burkinabé. Il s'est rendu à Paris en décembre dernier pour un stage de spécialisation à l'hôpital de Ville-Évrard à Neuilly-sur-Marne. Non préparé à faire face à une telle pandémie, il s'est retrouvé en première ligne. Yacouba Ouedraogo a recueilli son témoignage.
Je suis dans une zone qu'on appelle la Seine-Saint-Denis, qui est la zone la plus touchée en Ile-de-France. Et nous avons eu beaucoup de cas. Les collègues étaient touchés. Tout le monde était angoissé, stressé. Tout le monde avait peur de mourir.
Est-ce que vos objectifs ont changé? Est-ce que vous avez fait autre chose en dehors de la psychiatrie?
Non, les objectifs n'ont pas changé. Je me suis surtout engagé. Il faut apprendre la douleur et puis s'acquérir et se faire de l'expérience. Ça n'a pas changé. C'est vrai que les habitudes ont changé dans les services. Ceux qui comprenaient qu'on pouvait appeler au téléphone pour gérer certains problèmes, on le faisait. Et il y a des malades qu'on était obligé de faire venir et avoir des entretiens avec eux. C'est des patients qui ne comprennent pas surtout. Et il arrive des moments où on intervient dans des unités qu'on appelle les unités COVID, où nous hospitalisons nos malades qui sont atteints de COVID. Et là-bas, il faut, c'est des combinaisons, des chapeaux, des lunettes, des masques, même l'habit, il faut porter des surblouses. Et quand tu nous vois habillés dans ces conditions, bon, les malades ne comprennent pas. D'habitude, c'est des gens avec qui on se salue, on est à côté, on est assis, il y a des fois même on partage les repas ensemble. Et là, il faut se mettre à distance avec lui, avec un accoutrement extraordinaire. Ils ne comprennent pas.
vous ne vous attendiez pas à tomber sur une maladie comme le coronavirus. Lorsque vous arrivez et vous êtes obligé de faire face à ce genre de cas, qu'est-ce qui se passe dans votre tête tout de suite?
C'est pas facile. Tout change dans la tête. On a laissé une famille au pays, des amis au pays, des parents au pays, des enfants. Du coup, tu te retrouves face à une situation. Voilà l'angoisse qui est là. Est-ce que je serai contaminé? Si je suis contaminé, est-ce que c'est des interrogations? Les nuits, c'est des nuits blanches, sincèrement. Au travail, tout le monde est angoissé, tout le monde est stressé entre collègues. Quand tu rentres à la maison, sincèrement, tu penses à la famille. Et du coup, du jour au lendemain, tu apprends par les médias que le virus est chez toi. Il y a l'angoisse pour toi que tu vis, la peur pour toi. Et il y a la peur pour la famille. Et tu es obligé de faire des appels vidéo pour rassurer la famille et au pays, dire que non, tu vas mieux. Et du coup, toi aussi, tu t'inquiètes pour eux. Et au service, on a des amis qui sont contaminés. Et du coup, tu te demandes, est-ce que toi aussi, tu es contaminé? Si tu es contaminé, qu'est-ce qui va se passer?
Est-ce que vous avez vécu quelque chose de particulier qui vous a marqué un jour face à un patient ou dans votre situation de travail?
Oui, ce qui m'a beaucoup marqué, nous avons été en contact avec une de notre collègue et quelques jours après, elle a commencé à présenter les symptômes. Et quand elle allait faire le test, c'était positif pour elle et tout le monde était paniqué dans les services. Nous tous, on a cru qu'on était tous infectés. Et disons que ce jour même, elle et moi, on avait fait une visite à domicile ensemble où on avait rencontré des gens. Donc, du coup, l'angoisse était devenue plus belle. Et heureusement, nous tous, on s'est fait dépister et c'est s'avéré négatif. Et elle est restée confinée chez elle au bout de 2 semaines. Et puis elle a repris le travail et pour le moment, ça va.
Le docteur Brahima Sawadogo, psychiatre burkinabé, joint à Paris.
VOA Afrique, une fenêtre sur le monde.
La pandémie de Covid-19 affecte plusieurs secteurs d'activité, mais l'un des plus touchés, c'est le transport aérien. South African Airways est définitivement clouée au sol et la Comair bat de l'aile, pendant que Ethiopian Airlines, la plus grande compagnie africaine, annonce des pertes gigantesques. En Afrique, le secteur aérien était fragile bien avant la pandémie et doit maintenant faire face aux suspensions de vols et fermetures des aéroports. Mohamedou Oumfa fait le point avec Abdelrahman Barthé, secrétaire général de l'Association des compagnies aériennes africaines.
Avions cloués au sol, vente et des billets d'avions suspendus et malgré tout des charges indispensables à supporter, le secteur du transport aérien est dans une zone de forte turbulence. La pandémie du Covid-19 a un effet désastreux sur le secteur, selon Abderrahmane Berthé, secrétaire général de l'Association des compagnies aériennes africaines.
Plus de 95% des avions sont au sol et pour les compagnies africaines, ça va représenter plus de 7 milliards de dollars de perte de revenus passagers. Aujourd'hui, il n'y a que quelques compagnies aériennes qui opèrent des vols cargo et nous avons un manque de capacité pour transporter le cargo. Mais comme je l'ai dit, le problème immédiat est quand même la trésorerie parce que les compagnies aériennes généralement ont moins de 3 mois de trésorerie. Donc fin mai, début juin, nous allons probablement assister à des défaillances de plusieurs compagnies aériennes au niveau africain et même au niveau mondial, je dirais.
La situation est d'autant plus alarmante que la reprise ne pointe pas à l'horizon. Les compagnies ne savent toujours pas quand elles pourront reprendre les vols. De nombreux gouvernements ont décidé de leur apporter du soutien, mais pour Abderrahmane Berthé, les faibles capacités budgétaires de certains pays africains ne leur permettent pas toujours d'apporter de l'argent frais aux compagnies, mais elles peuvent apporter d'autres appuis.
Ça peut être aussi des prêts préférentiels ou des garanties sur les prêts ou même des allègements sur les taxes et charges que supportent les compagnies aériennes.
Quel que soit le moment où elles pourront relancer leurs activités, rien ne sera plus comme avant. Ces compagnies devront apporter plusieurs ajustements. Abderrahmane Berthé.
Nous pensons aussi qu'il faudra redéfinir le business model des compagnies aériennes parce que je pense que les avions utilisés, il faudra que les compagnies se repositionnent par rapport aux avions utilisés et même par rapport au réseau qu'elles exploitent actuellement au niveau africain.
L'Association des compagnies aériennes africaines estime qu'il faudra au moins 2 ans après la reprise pour que le secteur retrouve une certaine stabilité. D'ici là, il faudra déjà remettre en confiance les millions de passagers encore sous le choc de la pandémie.
Abdelhaman Barthé, secrétaire général de l'Association des compagnies aériennes africaines. Et c'est la fin de cette édition. La mise en onde de Lionel Runanira Gaïba, Georges Léonard Sagno, Michel Joseph et Joselle Morissin. À la présentation, Eric Manilakid. On reste en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site voafrique.com pour l'actualité 24 heures sur 24. N'oubliez pas, chaque jour est une vie. Excellente soirée à tous. À très bientôt.
Henri Francisque, 18h01.